la différence homme-femme, etc. Oui, absolument. Écoutez, oui, c'est vrai que je cherche des éléments de moi-même à travers ces trois figures, mais j'espère ne pas faire que des projections. Mon souci était de donner à mes lecteurs des portraits le plus objectifs possible de ces trois femmes. Évidemment, c'est par amour d'elles que je les ai choisies.
Enfin, un biographe s'implique.
Un biographe s'implique.
Surtout vous, je dirais même peut-être encore plus vous qu'un autre. Vous n'êtes pas là comme un professeur d'université qui va faire la biographie de Colette.
D'abord, j'espère parce que non.
Non, oui. Parce que d'abord, il s'agit de cerner le génie féminin. Donc vous avez d'abord un objet de recherche qui n'est pas simplement l'analyse littéraire. Vous essayez de savoir si vraiment chez ces trois femmes, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler génie féminin. Et si on appelle génie féminin, ça voudrait donc dire qu'il est différent du génie masculin. Et vous l'avez trouvé, cette différence ?
Il y avait plusieurs objectifs dans cette trilogie. Il y avait d'abord le souci de faire un peu le portrait de ce siècle. Car je me suis rendu compte qu'en faisant différentes choses, j'étais finalement profondément déterminée par ma place dans l'histoire politique de ce siècle, même si je ne l'explicite pas dans chaque situation. Et j'ai voulu indirectement donner ma vision de ce siècle. Ensuite, il y avait le souci de ramasser, non pas dans une somme, parce que je ne crois pas aux sommes, mais dans une œuvre éclatée, ma perception du féminin. Et en troisième lieu, un peu de régler mes comptes avec un féminisme de masse. Parce que je crois qu'il y a eu un féminisme de masse qui a apporté beaucoup de bien à la féminité, notamment à travers les lois sur l'avortement, à travers le souci de l'émancipation, dont on est loin encore, mais qui s'installe de plus en plus, en tout cas dans les démocraties occidentales, et qui néanmoins a enfermé, me semble-t-il, ce combat dans le massif, dans le massificateur.
Et en même temps, qui, et ça c'est très important chez vous, qui a voulu évacuer la maternité.
Qui a voulu évacuer la maternité.
Alors que chez vous, elle est fondamentale.
Moi, je tiens beaucoup à cette vocation.
Pour vous, mais pas seulement pour vous, pour vos études et pour les femmes que vous recevez.
Absolument. Oui. Je pense que c'est un problème de civilisation que de devoir, et nous ne pouvons pas encore, donner un discours laïque sur l'expérience maternelle. Car nous en parlions tout à l'heure, que ce soit la violence ou d'autres phénomènes de manque d'attention, acculturation, etc. La base, c'est bien sûr, on le dit souvent en psychanalyse, l'effondrement de la fonction paternelle, des interdits. On essaye d'éduquer les malheureux sauvageons en essayant de leur montrer combien la loi est ferme et que le père existe, mais on oublie que la destructivité est adressée d'abord, et c'est Melanie Klein qui le montre, au corps maternel. Or, ce corps maternel, qu'est-ce que nous en disons? Nous n'en disons pas grand-chose. Nous n'avons pas de discours laïque sur l'expérience à la fois délicieuse et cruelle et impossible de la maternité. Donc, toutes ces trois femmes, d'une manière ou d'une autre, tournent autour de cela.
Oui. Oui. Puis elle représente trois plans, puisque avec Hannah Arendt, on est quand même dans l'engagement politique. Avec Melanie Klein, on va se retrouver la psychanalyse. Et avec Colette, qui n'a ni la tête politique, ni la tête psychanalytique du tout, même si une grille psychanalytique peut être bien évidemment
mise sur son œuvre.
Elle aurait souri, elle aurait ri, ou peut-être même avec mépris. Vous êtes dans... le mot est un peu creux, peut-être la littérature pure, mais enfin, vous êtes dans quelque chose de très instinctif. Ce n'est pas une cérébrale. Donc, disons qu'avec les trois, ça vous a permis de faire un arc-en-ciel assez large.
Voilà, parce que d'une part, j'ai voulu montrer avec Hannah Arendt le canevas politique, ce siècle de Goulag et de Shoah, qu'elle a peut-être réfléchi mieux que personne. En tout cas, une des pionnières qui ont avancé cette idée de totalitarisme, parce qu'elle a vu comment les deux fléaux de ce siècle, c'est-à-dire le stalinisme et l'hitlérisme, se rejoignaient dans le même phénomène totalitaire, c'est-à-dire les camps, et qui sont pour elle fondamentalement le refus de la vie. Et le refus de la vie, pour autant que c'est une vue singulière, on revient à la singularité, et au fait que j'ai cherché contre le féminisme massificateur, le singulier de la femme, et non pas toutes les femmes. Parce qu'il y a eu de ça un peu, il y a une tendance totalisante dans le féminisme qui sort des mouvements paradisiaques et prophétiques de notre siècle, que ce soit le tiers-mondisme ou le communisme. On veut que les prolétaires, que le tiers-monde ou toutes les femmes apportent les lendemains qui chantent. Eh bien, Hannah Arendt nous dit les lendemains ne chanteront jamais si on ne réhabilite pas le qui contre le on de la foule. Mmh. Et donc ce souci du qui, c'est quelque chose qui l'habite tout au long de sa vie et de son combat, qui est à la fois politique et philosophique. Alors chez Mélanie, nous avons un autre aspect de ce siècle tragique, mais qui est en même temps plein d'espoir, c'est-à-dire le testament de Freud. Il y a de la folie, les humains sont fous, mais on peut les accompagner. Et on peut les accompagner depuis l'enfance. Ce que Freud avait annoncé, mais qu'il n'a pas fait, et c'est Mélanie qui le fait, en s'adressant aux enfants en difficulté, aux enfants, on appellera après psychotiques ou autistiques, et elle a fondé la psychanalyse des enfants, et la grande psychanalyse actuelle, qui est l'anglaise, à mes yeux, ce sont des successeurs de Mélanie Klein, comme Bion ou Winnicott, souvent Winnicott, en discussion avec elle, ou en désaccord avec elle, mais qui sont préparés par elle.
Souvent en désaccord, parce qu'elle avait un sacré caractère.
Elle avait un sacré caractère, et c'est parfois...
Elle ne cherchait pas forcément l'harmonie.
Oui. Ah non, non, mais sa violence intrusive a été à l'unisson avec la destructivité primaire, et elle a dévoilé quelque chose que les autres devaient après orchestrer avec plus de finesse. Lacan l'appelle une géniale tripière, n'est-ce pas, comme elle est dans les tripes, dans la violence. Et pourtant, elle a apporté beaucoup d'attention au langage, avant Lacan même, à sa façon à elle. Eh bien, dans tout cela, j'étais sensible au fait qu'il nous manquait un autre visage du siècle, qui est l'art de vivre, le bonheur de vivre, et le fait que les femmes ont participé à cela aussi, par leur libération, par leur goût, par leur sens de l'éclosion, que vous avez relevé tout à l'heure, et qui n'est pas seulement lié à la sexualité, il est lié aussi à leur attention à la nature et aussi à la maternité. C'est-à-dire que le temps du désir n'est pas seulement un temps, comme le dit très justement Hegel, à mort, à violence, Eros et Thanatos vont ensemble, c'est un temps de recommencement. C'est l'éternel retour de Nietzsche, si on veut, et elle a vu ça, Colette, à travers le personnage de sa mère qui se penchait sur l'éclosion des plantes, comme sur les visages des enfants. Et c'est ça qui m'a fascinée, que j'ai voulu apporter comme contrepoint aux deux autres.
Voilà, je saisis bien les complémentarités de ces trois figures. J'ai plus de mal à saisir, alors vous allez maintenant m'enseigner, j'ai plus de mal à saisir l'aspect féminin de leur génie. Peut-être que j'arrive à le saisir chez Colette,
oui.
Mais j'ai plus de mal à le saisir chez Hannah Arendt ou chez Melanie Klein. Pour moi, il y a génie, mais pourquoi est-il féminin ? En quoi ? Non pas pourquoi, mais en quoi est-il féminin ?
Écoute, j'essaye avec ce livre de mener une entreprise périlleuse qui consiste d'abord à montrer qu'il y a du féminin. Et je vais vous dire en quoi, par exemple, les trois femmes ont des traits qui sont spécifiquement féminins, ou du moins tels que la psychanalyse nous les révèle comme étant propres à la psychosexualité féminine. Et puis de faire un pas de plus pour dire que le féminisme a été peut-être une ruse de l'histoire qui nous conduit à aller au-delà de la dichotomie. Il n'y a pas que les hommes et les femmes. Ne nous fixons pas sur l'obsession de savoir « es-tu un homme ? Suis-je une femme ?»
Là-dessus, nous sommes bien d'accord. Mais
essayons de chercher la singularité. Mais c'est le génie qu'il faut écouter.
Ah bah oui, mais vous mettez féminin à côté.
Alors, il est d'abord féminin.
Je ne vous ai pas chipoté sur génie, je vous ai chipoté sur féminin.
Mais moi, je vous dis que le féminin doit être lu avec génie, parce que je vais vous dire ce qui est féminin, et le génie vient montrer que ce que je cherche, ce n'est pas ce qui est commun à toutes les femmes, mais ce qui, de ce commun de toutes les femmes, fait qu'il y a quelque chose de singulier. C'est donc le dérapage au-delà de la dichotomie homme-femme vers la singularité, pour dire que ce qui est intéressant dans le sexe, ce n'est pas de dire « Monsieur, votre sexe est masculin, Madame, votre sexe est féminin », mais c'est de dire « Monsieur et Madame, vous avez un sexe singulier, c'est votre génie, cultivez-le, il n'est pas nécessairement pervers, même s'il est un métissage des deux, c'est cette singularité que vous devez cultiver, c'est votre créativité. Maintenant, il y a du féminin commun, et il m'a semblé le retrouver à trois reprises, par exemple sur le fait que toutes ces femmes se sont intéressées à ce qu'il y a d'intéressant dans l'autre. Elles ne s'isolent pas dans l'individu, mais elles cherchent un lien. Il y a un objet pour elle. Pour Hannah Arendt, comme je vous le disais tout à l'heure, elle cherche la vie, autrui, la relation à autrui, contrairement à la plupart des philosophes pour lesquels la liberté est dans l'individuel et qui s'enferme, dit-elle, dans une sorte de tribu mélancolique qui fait des incantations à la singularité. Pour elle, l'individu est toujours déjà en relation avec autrui. Melanie Klein pense que l'enfant n'est pas d'abord narcissique, comme le pense Freud, il est toujours en relation avec un objet. Et beaucoup de femmes qui travaillent maintenant sur la sexualité féminine apportent cette vision de la présence de l'objet dès le début. Colette, qui est une amoureuse qui est souvent déçue, reste passionnément attirée par tout ce qui est relation à autrui. Ça peut être, encore une fois, le chat, l'animal, la plante, mais il y a cette relation qui est extérieure à son être. Premier point. Deuxième point, l'intérêt pour l'au-delà de la mort, le temps de l'éclosion. On le trouve d'une manière différente chez chacune de ces femmes. Et on peut accumuler les liens qui se rapportent à cette particularité que je considère, moi, et je donne tout un développement que nous ne pouvons pas faire ce soir, concernant la psychosexualité féminine, qui porte vers ce rapport à autrui, vers cette importance du lien et vers ce temps de l'éclosion qui est plus celui du recommencement que celui de la mort. Bien. Mais encore une fois, ce qui m'a intéressé, c'est de creuser le sillon de l'individuel.
Oui, oui. Bon, écoutez, je vais réfléchir si toutes ces caractéristiques ne se trouvent pas chez Rabelais, chez Pascal, chez Balzac, par exemple.
Elle se trouve, alors là, on aborde quelque chose qui est un autre point qui m'intéresse beaucoup, c'est la bisexualité psychique des créateurs. Et elle est affirmée différemment chez les uns et les autres, avec une accentuation différente. Et je trouve que chez ces femmes-là, elle est affirmée de manière plus nette.
Voilà un bon thème de réflexion. Julia Kristeva, nous plongeons dans votre œuvre romanesque, trois romans. Le dernier publié s'intitule « Possession ». Et là, alors là, vous aimez surprendre, la preuve, c'est que vous nous faites une sorte de polar, de roman policier, avec une série de personnages, enfin un crime, un mystère, mais ça n'est pas n'importe quel crime, c'est la décapitation, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous y voyez un symbole fort par rapport peut-être à cette pensée qui serait un des signes, justement, de la spiritualité de l'homme, cette capacité de se penser. Donc, à partir du moment où on enlève la tête, on lui enlève l'organe principal. Mmh. Et puis, il est évident aussi que pour vous, il y a un aspect, une certaine sexualité aussi dans cette décapitation et dans cet acte. Mais vous ne traitez pas de manière théorique, vous avez plongé vos mains dans le cambouis et vous avez épousé plutôt le modèle d'un polar français ou d'un polar américain. Alors pourquoi cette voie? Est-ce pour nous montrer tout ce que vous êtes capable de faire, ou bien parce qu'il y a là vous avez là une possibilité de dire certaines choses que vous n'auriez pas pu dire de manière théorique?
Je crois en effet que les genres de discours révèlent différents aspects de notre personnalité, et même si à travers la théorie dans laquelle on manie le concept, on peut toucher différents aspects de l'expérience humaine, on reste assez à l'extérieur. C'est une attitude qu'on appelle métalinguistique, on est au-dessus un peu des phénomènes, on n'implique pas sa sensualité. Alors, il m'a semblé, à un moment donné de ma vie, que je pouvais me voir de plus près, m'exposer de plus près. C'est quelque chose qu'on ne réfléchit pas, ça s'impose. Vous avez le sentiment que si vous n'adoptez pas cette parole-là, vous aurez du mal à continuer l'existence. Il m'a semblé que ça s'est imposé à moi à travers l'expérience de la maternité et aussi après la psychanalyse. Puisque avec l'expérience du divan, j'ai découvert un français beaucoup plus sensuel. On raconte son enfance, ses expériences quotidiennes, les banalités de la vie, et dans une langue simple. Donc je me suis rapprochée des racines infantiles de mon français. Et ça m'a encouragée un peu à basculer du côté de la fiction. Mais je sais très bien que je n'aurai jamais l'aisance de quelqu'un pour lequel le français est une langue maternelle. Et j'ai choisi exprès donc ce genre un peu artificiel, un peu ironique aussi, qui est le genre roman policier, parce que je pense qu'il nous donne la possibilité, à la fois de dire l'essentiel sur l'érotique et le thanatique, sur la cruauté et le désir, et en même temps de rester légèrement voilée, puisque c'est un genre, puisque c'est un jeu.
C'est parce que dans vos deux premiers romans, qui étaient Les Samouraïs, Le Vieil Homme et les Loups, ces deux premiers romans, vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, Julia Kristeva, sont relativement proches de l'autobiographie ou de personnages qui ont hanté votre vie.
Le premier, alors, tout à fait. Le second était déjà un roman policier.
Il y avait déjà une distance. Et là, il y a apparemment une très grande distance.
Tout à fait.
On pourrait trouver des liens entre votre expérience et ce livre, mais il ne se présente pas du tout
comme autobiographique.
Oui. Il m'a semblé que le personnage principal de Possession, Julia Kristeva, était en fin de compte un personnage qu'on voit à peine, mais qui est central. C'est Géry, c'est le petit garçon.
Oui.
C'est lui.
Oui.
C'est lui par qui tout arrive.
C'est vrai.
Oui. C'est lui qui est central. Oui. Et il ne parle pas.
Il ne parle pas, mais il va apprendre à parler. C'est un personnage qui a des difficultés puisqu'il est sourd. Il y a une surdité qui est un handicap et que la mère va faire tout pour lui permettre d'accéder à la langue. Et j'ai voulu montrer par là quelque chose d'essentiel dans la relation mère-enfant et combien l'amour maternel ouvre le langage, est à la base de la parole.
Voilà, sans oublier l'orthophoniste.
L'orthophoniste est la figure diabolique de tout cela parce qu'elle enseigne la langue de manière artificielle et elle noue une relation de compétition cruelle avec la mère qui va la conduire à l'assassinat.
C'est sa possession, ça peut être les êtres qui sont possédés et les êtres qui veulent posséder.
Absolument.
Voilà, ce qui est le cas effectivement de l'orthophoniste. Alors, n'oublions pas des Chinoises, c'est un ouvrage que vous aviez écrit il y a longtemps, un voyage que vous avez accompli avec Dubolinge, vous étiez avec Roland Barthes, vous étiez avec François Valle, vous étiez avec Marcelin Plénet, je crois un écrivain que vous connaissez, qui s'intitule Philippe Solers, en Chine.
Tout à fait, oui.
Et vous, 1974, donc aussi maintenant, 25-26 ans. Et c'est donc, je le résume très brièvement, de manière tout à fait schématique et donc par conséquent fausse, pardonnez-moi Julia Kristeva, mais c'est donc à travers l'expérience de ce voyage, essayer de comprendre à travers la situation que vous voyez en 1974, et puis, les quelques éléments historiques, puisque vous êtes allé jusqu'à la licence en chinois, quelques éléments historiques sur ce poids de la pensée de Confucius sur la société chinoise, de voir comment cette révolution est en train s'accomplir pour changer la condition féminine. Je voulais citer également aussi micro-politique, puisqu'il s'agit des chroniques que vous donnez la première édition, une émission connue sur France Culture, qui est on vous entend chaque mercredi à 8h25. Et alors là, c'est un autre visage de Julia Kristeva, parce que c'est Julia Kristeva qui regarde le monde politique d'aujourd'hui.
Je suis très contente que vous donniez l'occasion de parler des Chinoises. Je ne vais pas commenter mes chroniques, parce qu'elles se déroulent encore, on est en plein exercice. Ce livre sur les Chinoises a été souvent critiqué comme un engagement au maoïste. Moi, je l'ai vécu comme une tentative de comprendre une civilisation.
C'est ce que vous nous rappelez dans votre préface.
Voilà.
De comprendre cette civilisation à travers le présent
et en
même temps à travers le passé.
À travers l'archéologie du passé et la place des femmes sous Confucius et au-delà dans le taoïsme.
This fleeting woman.
On sait, Julia Kristeva, qu'il n'y a pas de foi religieuse chez vous, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Néanmoins, la préoccupation spirituelle est constante dans vos livres et je pense dans votre démarche. N'y aurait-il pas chez vous une sorte de présence d'un absolu immanent qui contrebalancerait justement l'absence d'un absolu transcendant?
On peut le dire comme ça. Je pense en effet, en écoutant Kathleen Ferrier chanter cette messe de Bach sur Matthieu, qu'il y a une mise à nu de la souffrance et il y a le signalement que du sens existe à travers et au-delà de la souffrance. Et je pense que l'attitude de l'analyste se tient sur cette crête-là, accompagner avec le maximum d'empathie la souffrance et espérer la déplacer, lui donner du sens pour qu'elle donne une créativité.
C'est ça, la déplacer vers la création.
Vers la création, quelque modeste qu'elle soit. Alors, c'est très modeste, mais c'est la spiritualité du soin. Je crois qu'il ne peut pas y en avoir d'autres aujourd'hui, dans la mesure où les modèles n'existent pas, ou sont trop ambitieux, trop archaïques, trop restrictifs ou intenables, ou habités d'une pulsion mortifère, comme on le voit dans certaines religions terroristes. Nous ne pouvons pas croire que contre cela, il y a simplement un message d'amour. Je crois que nous savons que nous sommes divisés entre le mal et le bien, vous disiez au début, et que c'est une immense souffrance. De l'accompagner et de pouvoir lui donner son sens pour qu'elle essaye autre chose, mais quoi ? Laissons le point d'interrogation. Je crois que c'est cette interrogativité compassionnelle qui serait une forme de spiritualité.
C'est dur de recevoir la souffrance des autres à longueur d'heures et d'heures d'analyse.
C'est une forme de résurrection. Ça vous permet de rencontrer la vôtre et de la partager. C'est une renaissance. On pardonne et on se pardonne.
Chaque souffrance est différente.
Absolument. C'est incommensurable. C'est pour ça que les théories, parfois on nous dit, mais vous travaillez avec des théories. Et il faut être armé de théories quand on arrive, mais elles s'effondrent et on fait
devant
de la poésie.
Devant la réalité de la personne. Oui.
Devant la réalité du discours de chacun, on fait de la poétique. Quand on peut, dans les moments de grâce. Malheureusement, c'est rare. Parce qu'on n'a pas toujours cette disponibilité. Mais on aspire à cela.
Et votre travail de psychanalyste, vous êtes décidé à le continuer, à le poursuivre.
Absolument.
Quelles que soient justement ces douleurs qui vous arrivent en miroir à longueur de journée.
Absolument. Non, je crois que, vous savez, on a parlé longuement de l'intellectuel engagé. Et je comprends ce besoin. Quand on a une certaine aisance avec le concept, avec les savoirs, on a envie de s'impliquer dans la misère du monde. Mais ces engagements montrent leurs limites très facilement parce que justement, il me semble qu'elles perdent le souci de l'individuel. Moi, je suis, si on veut me donner des étiquettes, très scotiste. Je pense à Duns Scott. C'est-à-dire, je crois à la singularité, à l'exeitas, le ceci, ecce homo. Et donc, c'est cette recherche de la singularité, elle conduit à l'acte littéraire, pour dire sa singularité à soi, rencontrer la singularité des autres, ou aux soins du psychique.
Cela dit, il y a tant de valeurs qui traversent le psychisme, qui viennent de l'extérieur, qu'il n'est pas toujours facile de cerner le véritable moi. Ce moi étant pris, il y a des possessions, pour reprendre un titre de votre livre, des possessions sur le moi. Peut-être encore plus aujourd'hui qu'auparavant. Enfin, auparavant, la possession pouvait venir d'un système idéologique ou d'une religion. Mais aujourd'hui, le système de possession,
il est encore
plus puissant, justement.
Le spectacle, la radio.
Alors, quel travail de décantation.
Mais c'est ça qu'on écoute, d'où l'écoute flottante, entre autres. C'est-à-dire qu'on essaye de passer à travers ce filtre et de percer le fort intérieur. Et c'est ça que l'analysant, comme on appelle maintenant au juste titre le patient, puisqu'il est très actif dans, ou elles sont très actives dans cette expérience, attend de nous et attend de cette interaction que le transfert contre transfert, c'est-à-dire cette révélation de l'inouï, de ce qui n'a pas été mangé par le vampirisme du spectacle.
Ainsi se termine Fort Intérieur avec comme invité Julia Kristeva qui a choisi les musiques que vous avez entendues. Seigneur, prends pitié, une messe orthodoxe russe en slavon par l'Académie de Moscou. Puis un extrait, Julia Kristeva vient d'en parler, de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, chanté par l'admirable Catherine Ferrier. Et actuellement Mood Indigo par Duke Ellington. Fort Intérieur, une émission d'Olivier Germain-Thomas, préparée avec la collaboration de Sandrine Chaperon à la technique Claude Courteau, chargée de réalisation Didier Lagarde. Donc, pour faire connaissance avec l'œuvre de Julia Kristeva, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez commencer d'ici quelques jours, lorsqu'il sera en librairie, par le troisième tome de sa trilogie sur le génie féminin consacré à Colette aux éditions Fayard, tome 2, Mélanie Klein. Tome 1, il est consacré à Anna Arendt, également chez Fayard. Je vous renvoie aussi à ce roman que je trouve très, très bien ficelé, très intéressant, très prenant, plein de richesses, Possession, qui se trouve en livre de poche, également en livre de poche, collection Folio, Les Samouraïs. Et puis, honneur à France Culture, puisque ce sont les chroniques de Julia Kristeva sur France Culture, sous le titre de Micropolitique, aux éditions de l'Aube.